France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La Russie mène plusieurs guerres de front à l'Occident. Une en Ukraine d'ordre vital, une autre silencieuse aux effets ravageurs. Une guerre de souterrain où le cyberespace est l'espace privilégié. Alors quelles techniques la Russie utilise-t-elle pour mener à bien ses ingérences étrangères? Comment les perfectionne-t-elle pour organiser ce chaos dirigé? Comment ses actions dans le cyberespace accroissent-elles ses actions dans le monde réel? Pour en parler, une invitée ce soir, Christine Dugoin-Clément. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne, à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au centre de recherche des écoles de Saint-Cyr, Couette-Quidan et à celui de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Et vous faites paraître aux presses universitaires de France cet ouvrage passionnant intitulé « Géopolitique de l'ingérence russe ». Merci d'être présente ce soir dans Question du soir.
Il y a des acteurs du crime organisé, ils sont là pour faire de l'argent avant tout, mais pas forcément que faire de l'argent. Il y en a qui font un peu aussi de l'espionnage. Les acteurs de l'activisme, ils sont là pour maintenir la pression. Et on entre dans un domaine un peu subjectif, mais on a quand même l'impression qu'il y a une pression permanente qui est maintenue sur notre société, sur notre économie, par une forme de continuum d'acteurs russes qui vont des services de l'État à des activistes patriotes, en passant par des acteurs du crime organisé qui maintient une pression, qui a des impacts économiques, qui a aussi une forme de sidération ou de sape notre confiance.
Le directeur général de l'ANSSI, Vincent Strubel. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Christine Dugoin-Clément, ce qu'il nous dit là, dans le fond, c'est est-ce que nous sommes attaqués dans le cyberespace par la Russie ou par tout un écosystème qui est structuré par et autour de la Russie?
Ça a été un des points sur lesquels la Russie a été assez efficace, c'est que non seulement elle va se déployer sur des champs de conflictualité, de friction, qui sont en dessous de ce qu'on appelle le déclenchement légal de la violence, donc en dessous de la guerre, et là vous allez avoir beaucoup de choses, hein. Vous allez avoir l'influence à laquelle on va pouvoir penser, vous allez avoir des agitations, différents mouvements, mais elle a réussi à travailler, c'est pas la seule d'ailleurs à le faire, avec un écosystème qui est complexe et qui d'ailleurs est parfois plus ou moins maîtrisé. C'est-à-dire que vous allez avoir effectivement des acteurs étatiques qui sont relativement identifiables. Alors on a toujours, et l'ANSSI est en règle générale d'une prudence de chat hein, pour les questions d'attribution.
Donc, faut toujours surinterpréter ce qu'ils disent ?
Non, c'est simplement que quand vous allez travailler dans le numérique, notamment dans les attaques cyber, eh bien vous allez souvent avoir 95, 97, 98, voire 99% de certitude technique. Et puis vous avez un petit pourcentage qui fait que techniquement, vous n'êtes pas forcément en capacité de pointer du doigt. Ce qui fait que souvent, on est sur un acte politique de dire qu'on va faire une attribution à un pays, parce que vous aurez des conséquences politiques très fortes qui pourront faire grossir ce petit pourcentage pour dire, mais attendez, vous nous accusez, vous n'êtes pas absolument certain. C'est ce que l'on avait pu voir d'ailleurs dans d'autres cas, quand l'administration Biden, par exemple, avait pointé du doigt Moscou. À l'époque, on était vraiment dans cette approche de geste politique pour cette raison-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut surinterpréter, si vous voulez, mais leur travail, c'est de collecter un ensemble d'éléments qui tendent à pointer vers tel ou tel acteur.
Je continue justement avec le directeur général de l'ANSSI. Il s'exprime cette fois-ci dans le journal Le Monde et il dit « La deuxième caractéristique, c'est la forte désinhibition de certains de ces acteurs. On voit les services étatiques mener des opérations de sabotage en Ukraine, en France. Des activistes s'en sont pris à des petites infrastructures industrielles, à des micro-barrages, à des éoliennes, à des moulins. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de désinhibition de certains de ces acteurs? Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune règle qui régit leur action?
On en a vraiment de moins en moins et c'est valable aussi bien pour les attaques cyber. Alors les opinions publiques avaient été d'ailleurs particulièrement choquées quand les systèmes hospitaliers et sanitaires de manière plus large avaient été ciblés parce qu'on avait un enjeu de vie humaine qui pouvait toucher les plus vulnérables d'entre nous. Bon bah c'est pas quelque chose qui avait été pris en compte dans un calcul éthique. C'est ce que l'on aura aussi dans les attaques informationnelles et d'ingérence au sens plus large où on pourra aller sur toute la totalité du spectre. Et par ailleurs, comme vous allez avoir des groupes qui sont structurés et puis quelque part un peu des prestataires auxquels on va laisser une marge de manœuvre relative, mais parfois la marge de manœuvre qui permet de se faire de l'argent pour soi, alors on l'avait vu hein, dans les attaques cyber, on pourra le voir aussi d'une autre manière sur les attaques informationnelles, eh bien ça peut être complètement désinhibé. Et par ailleurs, et j'en finirai là-dessus, l'approche informationnelle, on peut même parler de guerre cognitive, hein, c'est-à-dire que les cognitions de tout à chacun sont devenus un champ d'affrontement, potentiellement un champ de bataille, eh bien, on pourra aller au-delà de ce que l'éthique, telle que on peut l'entendre nous occidentaux, présiderait ou commanderait.
Quel est le risque concret, Christine Dugoin-Clément, d'un gel des coopérations en matière de lutte, d'action dans le cyberespace, de gel des coopérations entre la France et les États-Unis, entre l'Europe même d'une manière générale, et les États-Unis? C'est une menace qui nous pend au nez, si je puis dire. Est-ce qu'on saurait faire sans les États-Unis dans ce domaine?
Le problème, c'est que quand vous allez parler cybersécurité ou par ailleurs informationnel, eh bien, vous ne respectez pas forcément les frontières. Vous allez pouvoir avoir un acteur d'une nationalité X qui est stationné dans un état Y, qui va utiliser des canaux passant par trois autres pays, voire une équipe pluridisciplinaire et plurinationale, et vous allez attaquer un acteur dans un autre pays.
Donc,
à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de travailler avec de la coopération et du partenariat. Il y a encore très récemment une très belle opération qui a pu être menée sous l'égide française et qui mettait plus de 40 coopérations en place, qui a fait une très belle opération. Mais on est dans ce travail-là et on va avoir des similarités pour tout ce qui va toucher à l'ingérence passant par le numérique pour des raisons à peu près similaires.
Je voudrais qu'on fasse un peu d'histoire avec vous, Christine Dugoin-Clément, pour comprendre, pour bien identifier le fait que cette manière d'agir à l'international par la Russie n'est absolument pas neuve.
A Soviet military publication claims the virus that causes AIDS leaked from a US Army laboratory.
L'un des principaux objectifs du KGB était de répandre en permanence de la propagande et des mensonges.
No problem.
Nous avons commencé à détecter des activités soviétiques, de la propagande, de la désinformation. La méthode soviétique consistait à demander à l'un de leurs agents d'influence d'écrire un article, une accusation scandaleuse à l'encontre des États-Unis. Et ensuite, ça se répandait dans le monde entier. Tout à coup, les États-Unis sont accusés d'avoir développé le VIH contre ses ennemis extérieurs, ou comme une arme ethnique contre les Noirs, et d'autres choses de ce genre.
Un extrait du documentaire diffusé sur France 5 et intitulé Opération Trump. Christine Dugoin-Clément, est-ce que la Russie a toujours intégré dans sa stratégie, dans sa tactique également, des opérations de désinformation ?
C'est une très vieille école. Là, vous parliez notamment de l'opération Infection, qui visait les origines du VIH. On aurait pu remonter dans toute la période des mesures actives pendant la guerre froide, où beaucoup d'actions ont pu être menées, alors avec plus ou moins de créativité, avec plus ou moins de résultats. Mais on est dans l'héritage de ce travail-là. Ce qui veut dire que vous avez une expérience, vous avez des savoir-faire qui sont de très longue date. Alors, après la chute de l'URSS, on a eu une reconstruction et une reconstitution d'énormément de structures. Certains savoir-faire se sont perdus, mais d'autres sont arrivés. Et là, c'est ce que l'on peut voir. On va prendre un exemple tout simple. Si vous prenez l'opération Doppelganger, qui visait à usurper l'identité graphique d'un certain nombre d'organes de presse pour diffuser des articles contrefaits et puis leur donner une caisse de résonance numérique en utilisant le réseau Portal Combat, si on prend l'appellation Viginum, ou Pravda, si on prend l'appellation outre-Atlantique, ça n'est ni plus ni moins que ce que l'on avait pu faire pendant la guerre froide, et voire même dans les débuts de la guerre froide, quand on allait imprimer des faux journaux qu'on allait distribuer. Sauf que là, eh bien, vous avez moins de coûts d'impression. Vous pouvez, depuis quelques années, utiliser de l'IA générative pour usurper un article et le réécrire en changeant les faits, en changeant le ton. Et puis, vous avez beaucoup moins de possibilités de vous faire physiquement attraper, parce que vous n'allez pas avoir un distributeur, un imprimeur sur le terrain, mais vous allez passer par des réseaux, d'où l'intérêt d'avoir une compétence numérique importante pour pouvoir détecter ce genre de contrefaçon et de fraude.
Vous nous parlez en creux des réseaux sociaux. Quand est-ce que la doctrine militaire russe intègre justement cette question des réseaux sociaux pour qu'elle participe pleinement, entièrement à cette stratégie de désinformation?
Alors, il y a eu plusieurs refontes de doctrine. Alors, on a déjà des premières étapes qu'on a pu voir à partir de 2013-14-15. On appelle ça la New Generation War, où on va vous expliquer que les moyens non militaires, et là, vous allez mettre notamment vraiment tout ce qui va toucher à l'influence et à l'ingérence, doivent être intégrés comme partie prenante. Alors, il y a eu aussi des éléments où où Moscou a pu tester et voire même faire les frais de la capacité que les réseaux sociaux avaient de canaliser les foules. Et je pense notamment à des manifestations qui ont eu lieu de protestation contre les résultats qui est des scrutins en Russie autour de 2011-2012. Donc là, ils ont vraiment pris la notion de ce que l'on pouvait réaliser. Et puis, avec la guerre en Ukraine, le tout début, en partir de 2014, on a des réécritures, 2014, 2016, des réintégrations, si vous voulez, où tout ce qui est mesures non militaires, approche informationnelle, etc., va être défini. D'abord d'un point de vue défensif, c'est-à-dire comment se défendre soi-même, mais en creux, vous voyez ce que l'on imagine pouvoir être fait, et ensuite sur des applications. Et on a un deuxième virage qui a lieu en 2022 après le déclenchement de l'invasion massive qui, dans les premiers mois, ne tient pas forcément, du moins ne répond pas aux attentes du Kremlin. On a tous vu les différents patinages et les erreurs. Et à ce moment-là, les services de renseignement vont être pointés du doigt par le Kremlin. Il y aura des très grosses purges dans le département 5 du FSB, par exemple, mais le GRU aussi. Et là, on va avoir notamment une restructuration de comment est-ce que, au sein de ces services-là, on va travailler l'approche informationnelle. On va restructurer la gouvernance, on va restructurer l'évaluation, etc. Et on aura les premières tests in vivo, si j'ose dire, qui vont être réalisés après, et des pays qui sont en voisinage parce que bien connus, parce que partage de la langue, partage de la culture, vont être de superbes terrains d'exercice, je pense à la Moldavie, tout en laissant une pression forte sur d'autres pays, soit pour diviser, soit pour rallier, en fonction de ce que vous vouliez faire, ce qui veut dire que vous allez arriver à avoir une adaptation, notamment du narratif qui sera poussé.
On va revenir évidemment avec vous sur les modes opératoires les plus récents, mais une question d'abord, une chose qui m'a toujours frappé, c'est que ces attaques dans le cyberespace, ces campagnes de désinformation, on sait les attribuer à la Russie, on sait très bien qui les pratique, comment ils les pratiquent, avec quelle technologie. Comment est-ce que la Russie se dédouane, se justifie? Est-ce que le pays même ose se justifier quand on rencontre des diplomates russes, quand il y a des rencontres au sommet à l'international? Comment le pays se justifie de toutes ces actions néfastes, nocives, illégales?
Alors, il y a déjà l'approche du déni plausible. Où on va essayer à chaque fois de quelque part se cacher l'arbre qui cachait la forêt, pour revenir à.
Je vous jure, c'est pas moi.
Non, mais prouvez-moi. Et alors, on a aussi d'autres approches. Par exemple, ce qu'on a pu appeler le whataboutism, c'est-à-dire oui, mais et vous. Donc, on va détourner la question. Une approche que mon fils qualifierait de shaggy, was on me. Oui, c'est une référence qui date un peu, il est vrai. Mais où on va essayer d'être sur cette approche-là. Donc, on va nier que ce soit crédible ou pas crédible, et comme vous allez, en règle générale, pas prendre un élément ex nihilo qui ne vient de nulle part, parce que l'adhésion serait beaucoup plus difficile. Donc, vous allez utiliser soit un narratif ou un sujet qui est sensible dans une aire géographique, parce qu'elle va être le fruit de l'histoire, par exemple, potentiellement parce que vous aurez aussi travaillé sur le long terme à entretenir ou du moins à pointer des défaillances, par exemple, mais qui préalablement existaient, c'est ce qu'on peut voir sur le continent africain. On part pas de rien, on part d'une histoire existante et de sujets parfois non ou maltraités. Bon. Vous allez avoir cette adhésion-là, et à partir du moment où vous allez diffuser ces narratifs-là sur une population qui va y adhérer, parce que vous allez toucher des éléments éminemment émotionnels, votre objectif, de toute façon, il est pris en œuvre. Et à partir du moment où, de toute façon, vous êtes sur une approche où vous voulez défausser et discréditer, c'est ce que fait beaucoup la Russie avec les Occidentaux. Parfois, c'est plus facile que d'autres, parce qu'il est arrivé qu'on facilite la tâche. Mais finalement, c'est pas forcément toujours vous qui êtes la cible. Et à partir de là, vous allez pouvoir envoyer en disant « Vous voyez, ils veulent nous faire taire. Vous voyez, ils se veulent gendarmes du monde. » Donc en fait, vous allez pouvoir rejouer sur un certain nombre de narratifs. Et comme ils vont jouer sur un spectre extrêmement large, qui va aller, par exemple, des faits historiques qui ont généré un sentiment anticolonialisme parce qu'il y a eu des heures sombres, bien évidemment. Et puis, on va pouvoir aussi jouer sur des vraies fausses mises au jour de secrets, par exemple, mais qui répondent à une aspiration ou à un désir. Et à partir de là, on va pouvoir suivre, et dans la grande tradition de la presse jaune.
Sur les modes opératoires, alors vous en exposez de nombreux dans Géopolitique de l'ingérence russe qui vient de paraître aux presses universitaires de France, et notamment une multiplication de ces modes opératoires depuis le début de la guerre en Ukraine. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que sont les 1000 blogueurs. Je vous cite justement dans le texte, vous dites, vous écrivez plutôt dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine, on a également observé l'émergence des 1000 blogueurs, des spécialistes du domaine militaire, publiant souvent sur une chaîne Telegram dédiée tout en étant des non-professionnels. Alors, qui sont ces 1000 blogueurs pour commencer? À quoi servent-ils et en quoi servent-ils le Kremlin?
Alors, les 1000 blogueurs, effectivement, c'était initialement, on en a d'autres, des gens qui vont écrire sur les réseaux et qui vont commenter un conflit en cours. On en a eu une explosion avec, sans vilain jeu de mots, avec le conflit en Ukraine. Alors certains vont avoir des compétences antérieures de par leur parcours professionnel, d'autres beaucoup moins. Et ces 1000 blogueurs sont devenus extrêmement importants, ont été extrêmement suivis par les opinions publiques, par les journalistes, etc. Et ça n'a pas échappé à l'œil de Moscou, qui parfois a intégré ces 1000 blogueurs-là dans une stratégie plus globale, quitte à créer ex nihilo des 1000 blogueurs ou à intégrer des 1000 blogueurs dans certaines unités pour prendre des photos, etc., essayer d'avoir une forme de contrôle. Certains 1000 blogueurs avaient un petit peu échappé au contrôle, ont pu être l'objet de recadrages plus ou moins délicats, mais on a en tout cas cette grosse communauté-là. Et puis, certains 1000 blogueurs ont été directement des extensions de différents services du ministère de la Défense russe, ou voire même ont pu être des extensions, là aussi plus ou moins directes, mais parfois extrêmement directes, de sociétés militaires privées comme Feu Wagner, devenu Africa Corps en Afrique, voire Wagner Legions, parce qu'on avait quand même un nom qui était porteur, mais qui est, alors, un des poids lourds, certes, de sociétés militaires privées, mais qui était un des acteurs au milieu finalement d'un paysage extrêmement concurrentiel où vous aviez beaucoup d'autres structures d'envergure plus ou moins importante dont certaines pouvaient même être rattachées à des dirigeants du ministère de la Défense.
Autre mode opératoire que vous exposez, je vous cite encore, on a également pu observer, écrivez-vous, le déploiement massif de sites internet générés par des intelligences artificielles, les UN, si vous me direz si je prononce bien, en français en tout cas on dit les sites non fiables générés par l'intelligence artificielle. De quoi s'agit-il là encore?
Là encore, c'est simplement l'adoption de la technologie. En fait, on va utiliser une technologie pour faire plus rapidement et à moindre coût ce qu'on faisait préalablement. Et là, c'est exactement le cas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter des sites en utilisant les capacités de l'intelligence artificielle. Là encore, il n'est pas question de dire que l'intelligence artificielle est bonne ou mauvaise. C'est un outil, tout dépend de ce que vous allez en faire. À partir de ce moment-là, ça vous permet de générer des sites de manière beaucoup plus rapide. Ça vous permet de les alimenter de manière beaucoup plus rapide. Alors, on a eu
Donc des faux sites, par exemple, des faux sites de France 24, du Monde ou de France Culture.
Oui. Alors, certains sont un petit peu plus difficiles à rattacher à un État ou à un autre, mais on voit que si, sur certains sujets, ils sont assez neutres dans ce qu'ils vont diffuser, alors, par exemple, si vous parlez de sport, de résultats de sport, oui, bah là, on sera effectivement assez neutre. Par contre, sur certains sujets qui peuvent être clivants, eh bien, on va retrouver une ligne éditoriale, si l'on peut dire, qui se rapprochera des intérêts soit de la Russie, soit potentiellement de la Chine ou d'autres pays qui mènent des actions informationnelles sous les radars, sous les lignes et à visée de perturbations d'état tiers.
Pourquoi parle-t-on désormais de cogwar, de guerre cognitive? Qu'est-ce que cela apporte de plus par rapport au concept que l'on connaît par ailleurs? Qu'est-ce que cela enseigne en plus justement sur les modes opératoires que vous décrivez à ce micro?
Alors, quand on va parler de cogwar, donc de guerre cognitive, c'est de prendre la mesure du fait que les cognitions humaines dans leur ensemble peuvent être l'objet de disputes. Aussi bien de disputes que de frictions, que de tentatives de formatage par l'extérieur. C'est-à-dire, sans que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir la perception que vous allez être l'objet de ce travail de façonnage, ou en tout cas de ce travail qui va venir quelque part mettre un petit peu le bazar dans vos têtes avec tout ce que ça peut pouvoir générer derrière en termes de mal-être quand on va vraiment très très loin dans l'approche. C'est quand même aussi un des détails de l'histoire qui mérite d'être souligné.
Est-ce que la distinction, Christine Dugloin-Clément, entre virtuel et réel a bel et bien du sens? Est-ce qu'il se passe sur Internet, reste sur Internet, ou les effets concrets dans la vie réelle de toutes ces opérations que vous décrivez sont massifs, importants et mesurables?
qui est intéressant, c'est que les opérations informationnelles, il ne faut plus les penser comme étant uniquement numériques. Ce que l'on peut voir, c'est que on va souvent essayer de leur donner une forme de légitimité en mettant de la chair sur le squelette, en quelque sorte, c'est-à-dire en les appuyant sur une action, quitte à la contrefaire, mais qui va prendre corps dans le monde réel. Un des exemples qui a d'ailleurs été un ratage, ça a été les étoiles de David qui n'ont pas marché. Pourquoi ? Bah parce que vous avez des vrais gens.
On rappelle l'histoire, les étoiles de David bleues peintes dans différents arrondissements du sud de Paris, notamment.
Du sud de Paris, tout à fait. Et puis l'enquête a pu remonter les auteurs de ces tags comme ayant été payés.
N'étaient pas des tags antisémites, mais des tags
exactement qui ont été créés et qui par contre voulaient capitaliser sur un contexte géopolitique réellement perturbé. Encore une fois, on part pas de rien, on va donner du corps. Et à partir du moment où vous allez créer ce genre d'action dans le vrai monde, dans le monde réel, eh ben vous avez deux avantages majeurs. Le premier, vous savez quand les choses arrivent, donc pour leur donner du coffre, leur donner de la viralité dans le monde numérique en créant de faux articles, bah quand vous savez quand un événement arrive, bah c'est quand même beaucoup plus facile d'être à temps. Et puis le deuxième élément, c'est que vous avez des gens qui de bonne foi vont pouvoir voir ces étoiles, vont pouvoir les interpréter de différentes manières, et là encore, vous allez donner du corps. Donc on va casser cette frontière, parfois, entre le monde physique et le monde numérique. Ça pourra marcher en montant ou en descendant, créer quelque chose dans le monde numérique, et puis aller faire dans le monde réel, un événement, une manifestation, peu importe, pour le justifier. Donc maintenant, on peut plus être uniquement en pensant que sur ces actions-là. Ça pourrait être d'autres actions aussi, comme un mouvement, l'instrumentalisation de mouvements de population, par exemple, ou ce genre de choses que vous pourrez aussi, là encore, réutiliser. On va casser cette frontière-là, et dès lors, on ne peut plus les penser comme étant complètement désolidarisés l'un de l'autre.
Vous l'avez dit en creux en utilisant l'expression « donner corps » à plusieurs reprises, la force de l'ingérence russe aujourd'hui, c'est aussi de s'adapter à chaque cadres nationaux, à chaque concept nationaux, hein, c'était illustratif, c'était même un exemple parfait avec ces étoiles de David peintes dans le sud de Paris. Comment est-ce que l'ingérence russe, justement, parvient à cibler les lieux, les sujets les plus abrasifs des différentes sociétés dans lesquelles ils interviennent? Ils connaissent bien ces sociétés, ils les connaissent même sur le bout des doigts?
Ils ont travaillé pour les connaître bien, pour les connaître mieux. Parfois, il y a quand même un petit peu des ratages, des demi-ratages. Et puis, vous allez avoir aussi une implantation locale de plus en plus. C'est ce que l'on a pu voir, notamment sur le continent africain, où on va engager des journalistes locaux, où on va voire même déployer des vraies fausses ONG ou des vraies fausses fondations qui auront une action parfois totalement cosmétique, mais qui permettent d'avoir une prise sur le terrain. Alors certaines ne manquent pas d'humour, hein. On en a certaines dont le nom, l'abréviation du nom donne FBI, qui a été bien connue et qui a été particulièrement active au moment du putsch au Niger. Donc on va avoir toute cette approche-là, si vous voulez, et là encore, on va adapter non seulement le narratif avec de l'observation fine, on va adapter aussi la langue, et là, les IA génératives vont pouvoir être utiles pour faire de la traduction. Et puis, on a appris à être plus efficace, hein, c'est-à-dire que, par exemple, dans certains cas, on voyait des traces de prompt qui restaient dans les articles parce qu'on était allé un petit peu vite, et puis on va aller sur d'autres domaines pour essayer de toucher d'autres populations. À ce titre-là, eh bien, on va par exemple utiliser les chats dans les jeux vidéo, voire développer des jeux vidéo. Vous avez dans Minecraft, vous pouvez refaire la bataille de Barmouth, la libération appelée comme ça de Mariupol. Vous avez un autre jeu, African Dawn, par exemple. On a pu avoir d'autres événements, type des organisations de concours de tag, sponsorisé plus ou moins par la Russie, et puis vous allez en avoir un qui va être où vous allez voir Vladimir Poutine, et on va vous expliquer à quel point effectivement on a une volonté. Voilà, donc on va pouvoir mélanger un petit peu la totalité de ces éléments.
En quelques mots, pourquoi est-ce que vous parlez de chaos dirigé? Quel est le sens de cet oxymore apparent?
Alors, pourquoi le chaos dirigé? Tout simplement parce que dans les opérations informationnelles, ce que l'on va pouvoir voir, c'est soit d'une partie essayer de persuader les gens, hein, pour les rallier, soit de l'autre, arriver à diviser les groupes sociaux, les opinions publiques, à les polariser. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez semer le chaos dans un groupe social, dans un État, dans ce que vous voulez, et ça sera beaucoup plus difficile pour cette structure d'arriver à prendre une décision et à pouvoir la maintenir dans le temps.
Merci beaucoup Christine Dugoin-Clément. Je rappelle que vous êtes chercheuse à la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris, un Panthéon-Sorbonne. Et le titre de cet ouvrage passionnant, c'est Géopolitique de l'ingérence russe. Et c'est aux presses universitaires de France. Merci d'être venue ce soir dans Question du soir.